Les échos de la toundra. De mon ombrageuse toundra d'une avoudoise, jusqu'au cœur flamboyant du Québec ancestral, vive et furibonde salutation, congrégation d'Ars Macabra et du Souterrain. Après la messe des morts 11, me voilà de retour d'un bref séjour en Acadie ou dans mon chalet au fond des bois sur le bord de la mer. J'ai trouvé un certain apaisement sauvage mais aussi intellectuel, pouvant là à mon aise replonger dans les tomes et ouvrages damnés et dangereux de ma bibliothèque précieuse. Et de ces livres, il y en a un que j'ai voulu relire, un article en particulier compris dans le recueil de la Disinformation Company, abrégé en Disinfo, intitulé « Book of Lies », ou « Livre des mensonges », sous-titré « Le guide Disinfo de la magie et de l'occultisme, une formule alchimique pour percer le tissu de la réalité ». Le texte dont il est question, que j'avais lu en 2008, m'avait jadis profondément marqué, même comme instinctivement saisi et fasciné, non pas en raison de son contenu, mais de ses implications en ce qui concerne mon propre cheminement personnel, jusque-là et après. Il se trouve à la presque fin du tome et il est signé de la plume de Stephen Flowers. Un très curieux texte par un encore plus curieux penseur, autrement connu sous les noms de plume Edred Thorson et Darban Eden. Même si vous ne le connaissez pas, écoutez-moi, les idées de Maître Flowers ont certainement tout un impact sur vous, adeptes du black metal. Car voici un des partisans de l'occultisme les plus importants du dernier quart siècle, en particulier en ce qui concerne le paganisme néo-germanique et de l'odinisme. Il a contribué à établir ses mouvements en Amérique du Nord dans les années 1970 après tout, et plus que cela, au-delà son leadership en tant que magistère templier de la Temple of Set dans les années 1980, il a été actif dans de nombreuses organisations occultes du satanisme dit de la voie gauche, appelée Left Hand Path. En cours de carrière, Flowers a publié plus de 3 douzaines de livres et des centaines d'articles et de traductions sur un large éventail de sujets. Mais pour moi, qui souhaite guider et noirement illuminer votre passage initiatique dans les mystères du black metal, il y a un texte en particulier qui, là, nous appelle à découvrir ensemble, surtout en ces ténébreux et enténébrants temps de l'hiver. Initialement publié le 31 octobre 1994 dans la revue Fringewear Review No. 6, entre parenthèses 66, son titre est « The Secret of the Gothic God of Darkness ». Et là, pour la première fois traduite en français par votre humble magistère secrétorum, je vais m'en servir pour vous livrer un sinistre sermon et un écho de la toundra pour vous. Et je vous en fais ce soir une hurlante représentation dans toute son intégralité. Oui, et recevez le secret du dieu gothique des ténèbres. Un dieu caché qui réside dans une tour forteresse en spirale de laquelle il a guidé et observé notre développement depuis des temps immémoriaux, qui demeure dissimulé. Or, est en proximité de nous, attendant patiemment le temps de son réveil. Et le temps de son réveil approche. Entendons des déjà le tonnerre lointain qui coup sur coup tombe de plus en plus près, signalant la tempête à venir. Pour ces élus, l'héritage du dieu gothique des ténèbres peut occultement guider l'âme en processus d'éveil vers un état de développement dans lequel il pourra atteindre une conscience permanente, voire immortelle. Cette conscience universelle cachée, elle peut agir ou non dans l'univers matériel selon son gré, surtout qu'elle est informée de tous les secrets de la vie, de la mort et de la vie dans la mort. Pour l'initié, le coût associé à cette révélation est rétribué à même le sacrifice nécessaire pour son obtention, car pour celui qui voudrait être son adepte, il ne peut y avoir aucun repos, aucun répit dans la quête qui est et demeure l'œuvre éternelle. Parce que la façon dont la connaissance de ce dieu gothique sombre est transmise de génération en génération, contredit les méthodes privilégiées des soi-disant grandes religions du monde, c'est-à-dire religions du livre, soit le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cette connaissance et ces méthodes ont été interdites par eux et rendues de plus en plus tabous, cela sur les siècles depuis la malingue conversion idéologique de l'Europe à le christianisme. Peuvent être brûlés, les chefs religieux peuvent être tués, mais le sang perdure. Au cours des 10 ou 15 dernières années, notre culture européenne occidentale, qui comprend ses colonies en Amérique du Nord et en Australie, a témoigné d'un renouveau de la culture gothique esthétique. Cette renaissance, ou ce réveil de l'esprit gothique, suit à bien des égards les caractéristiques de toutes les renaissances qui l'ont précédée. Afin de comprendre la nature et le caractère de l'esprit qui sous-tend cette esthétique, nous devons prendre comme clé du savoir le mot gothique soi-même. Ce terme est en fait spécifiquement dérivé du nom d'une ancienne nation germanique, les Goths, venus du Grand Nord, de l'actuel Gotland en Suède. Ils ont déferlé sur le sud de l'Europe vers l'an 150 de notre ère, et en cours de migration, se sont divisés en deux groupes, les Visigoths et les Ostrogoths. Dans le sud, ils établissent des royaumes sur la péninsule italienne, établissant une capitale à Ravenne, et dans la France méridionale, avec une autre capitale à Toulouse. Plus tard, sous la pression des Francs, le royaume ostrogothique aura déplacé sa capitale dans l'actuelle ville espagnole de Tolède. Et dans toutes ces régions, les Goths ont fondé de nombreuses traditions secrètes au plus haut niveau de leur société. La partie émergée de cet iceberg se révèle lorsqu'on se rend compte que plusieurs noms de nobles familles espagnoles et italiennes sont en fait dérivés de formes gothiques, telles que Federico, Adolfo, Carlo et Ricardo, parmi les plus familiers. Même le mystère de ce qui est arrivé au trésor perdu de Rome, qui comprenait la Arona et Doute, ou Arche d'Alliance perdue, peut être résolu grâce à la connaissance de l'histoire secrète des Visigoths. Mais il s'agit là d'une histoire pour une autre fois. Éventuellement, les Goths seront vaincus militairement par une coalition de l'Église catholique romaine et du roi des Francs, qui est le premier roi germanique à se convertir au catholicisme romain. Tous les autres avants, y compris de nombreux Goths, s'étaient sournoisement convertis, mais plutôt à leur propre christianisme gothique et ésotérique. L'invasion musulmane en 711 de notre ère mettra un terme définitif à la domination gothique en Espagne. Mais leur tradition secrète a perduré. Les Goths ont acquis leur époque époque et au cours des suivantes la réputation d'être une sorte de race de maître. Dans l'ancienne Scandinavie, le mot Gothard était utilisé comme titre honorifique pour désigner les Urgos. De même qu'aujourd'hui encore, les membres de la classe noble de l'Espagne moderne sont appelés Gothos. Au fil du temps, partie de la tradition gothique secrète a fusionné avec certaines traditions établies des peuples parmi lesquels elle a disparu, tandis que d'autres parties ont été submergées dans la sous-classe culturelle formée des paysans, des vagabonds et des hérétiques. 4 ou 5 siècles après leur effacement, c'est l'esthétique évocatoire de l'esprit des Goths verra le jour en Europe du Nord. Les historiens de l'art le dénommeront justement gothique. Les Ocuries, touchés par la présence des Goths, n'est resté indemne de leur prestige et de leur tradition secrète. Ce passé gothique, ténébreux et mystérieux, aux qualités surhumaines, se présente comme une alternative secrète au passé classique lumineux et rationnel qui a servi de modèle aux théologiens chrétiens du Moyen-Âge et aux humanistes rationnels de la Renaissance. C'est dans ce cadre culturel que le mouvement romantique a commencé à se développer au 18e siècle. Les modèles classiques n'avaient pas réussi à soutenir la vision de l'avant-garde de l'époque. Ainsi, les poètes, les artistes et les penseurs se sont tournés vers un passé encore plus ancien, plus lointain, comme pour accéder à un niveau encore plus profond, plus mystérieux et en même temps plus réel d'eux-mêmes. Lorsque les Français ont cherché au-delà de leurs racines chrétiennes médiévales, ils ont trouvé les Romains, et le terme romantique est alors donc venu à décrire avec justesse ce qu'ils recherchaient. Cependant, dans le nord de l'Europe, le terme ainsi que son idéal sentimentaliste était généralement jugé inadéquat par les âmes aventureuses, qui ne l'estimaient incapable de les mener à la profondeur tant du passé que de l'esprit. On se souvenait encore que notre noble passé n'était pas du tout romain, mais gothique. Un mot que désormais est également synonyme de germanique ou teutonique. Le monde gothique était pour eux un monde du passé lointain et puissant, enveloppé de brume et d'ombre, un ténébreux monde nocturne de rêves et de cauchemars. Gothiques évoquées par les artistes de l'époque, notamment celles des poètes comme Bürger, Novalis, Byron et Hugo, ou celles des peintres comme Fuseli, Arbo et Doré, servaient de portail sur le courant gothique et son monde. Les morts revinrent à la vie et marchèrent parmi les vivants, et sur les vivants firent naître les enfants d'air. Ce processus se poursuit depuis ces nuits jusqu'à aujourd'hui, se ramifiant dans des cercles de plus en plus larges pour englober de plus en plus d'aspects de la vie. Mais au niveau de ce que l'on pourrait appeler la culture populaire, on peut voir des traces claires qui relient le roman The Mysteries of Udolpho Dan Radcliffe ou The Monk de Matthew Lewis. Melmoth the Wanderer de Charles Maturin, les contes et la poésie d'Edgar Allan Poe, The King in Yellow de Robert Chambers, Dracula de Bram Stoker, plus encore l'œuvre de Hansa Heinz Evers, H.P. Lovecraft et Anne Rice. Tous à leur manière ont contribué, volontairement ou non, à l'ascension du dieu gothique des ténèbres dans la culture populaire. À bien des égards, Le célèbre roman de Stoker, Dracula, était un sinistre avertissement concernant l'émergence d'une influence maléfique issue du passé gothique. Dendito ten Reitenschnell. Les morts voyagent rapidement, comme il est chuchoté par l'un des compagnons superstitieux de Jonathan Harker au chapitre 1 du roman, juste après l'arrivée de la voiture du monstrueux code. Curieusement, Stoker avait fait justement déclarer à son noble sa parenté avec les berserkers du Nord, qui eux se battaient avec, et je cite le vampire, l'esprit que Thor et Odin leur avaient donné. Il y avait même indirectement référence à la tradition gothique rapportée par Riordanes dans sa Gaedica, selon laquelle Léon aurait été la progéniture de démons qui erraient dans les steppes et de sorcières gothiques, connues sous le nom de Aljurunas. Et l'influence gothique n'a non plus échappé à l'écrivain américain H.P. Lovecraft, qui, lorsqu'il se sentait plus valeureusement héroïque dans sa jeunesse, s'identifiait fortement à l'héritage gothique. Dans une lettre datant d'octobre 1921, il écrit « Je suis essentiellement un teuton et un barbare, un nordique santo-groïque des forêts humides d'Allemagne ou de Scandinavie. Je suis un fils d'Odin et un frère de Hengist et de Horsa. » Là, le dieu le plus important des anciens Goths était en fait leur ancêtre le plus lointain. Les histoires gothiques décrivent comme un certain Kaut. La littérature nordique ancienne fournit la clé pour découvrir l'identité plus familière de ce dieu. Nous y trouvons ce nom parmi les nombreux noms spécialisés donnés au dieu Othin ou Wotan, comme l'appelaient les anglo-saxons. Othin est appelé Allfather, le père de tous, et Kaut figure en tête de la généalogie des rois gothiques, tout comme Wotan figure en tête de la généalogie de tous les rois anglais prédormants. Ce dieu, ancêtre suprême des prêtres humains, était un communicateur sage et obscur. Il est le maître de toutes les formes de communication mystérieuses au moyen de signes et de symboles. Dans les temps anciens, un système de symboles de communication a été découvert et appelé runes. Afin de les apprendre, le dieu s'est pendu pendant 9 nuits à un arbre et a ainsi rencontré le royaume de la mort. Et percé par cette pointe de lance qui est l'interface entre la vie et la mort, il a immédiatement compris les runes, les mystères du monde. Ces runes, mot qui provient d'une forme proto-germanique reconstruite, runo, qui peut être traduit par secret, mystère ou conversation secrète, forme dans leur ensemble un système d'éléments sémiotiques qui ne sont pas seulement puissants d'une manière purement abstraite ou théorique, mais qui sont, par leur nature même, liés à l'univers physique et au domaine de la génération et de la régénération. Même dans l'Antiquité, lorsque Wotan était reconnu comme le plus grand dieu des peuples germaniques, il n'était pas un dieu particulièrement célébré ou aimé. Il évitait les hommes, se cachait d'eux, ce qui fait les convenait très bien en raison de ses qualités funestes et sinistres. À l'époque et aujourd'hui encore, Wotan vit dans les ténèbres les plus profondes et voyage à travers des territoires les plus interdits du multivers. Cela dans sa quête éternelle de savoir toujours plus grand. Comme pour les anciens Goths, le rôle le plus essentiel de Wotan est d'être le Allfather, le géniteur d'une lignée sanguine continue, puis, à travers cette lignée, de forger un lien permanent avec l'humanité. L'importance alors du sang en tant que symbole de ce phénomène réel mais mystérieux est essentielle. Le mystère et le secret de Wotan n'est pas alors que sa connaissance ou sa sagesse se soit transmise par des cultes clandestins, bien que cela arrive, ni non plus qu'elle soit redécouverte dans de vieux livres et textes, bien aussi également que cela arrive, mais plutôt que cette sagesse soit codée d'une manière mystérieuse dans le matériel génétique même d'un peuple, de ceux qui descendent de lui. Cela est en soi un secret terrible à porter. Une fois qu'on l'a saisi, c'est un secret qui a rendu fou plus qu'un homme. Informations runiques, soit mystérieuses, sont stockées dans le sang, où elles restent cachées et dormantes jusqu'à ce que le bon stimulus soit appliqué de l'extérieur, ce qui signale leur activation. De cette manière, la connaissance peut sembler avoir été éradiquée, mais elle refait surface encore et encore, sans lien apparent ou apparemment naturel entre une manifestation et d'autres remanifestations ultérieures. Plus récemment, les scientifiques ont découvert la plateforme phénoménale de ce processus nouménal sous la forme de la double hélice de la molécule d'ADN. L'obsession gothique doit être une obsession pour le mystère des ténèbres. Ce n'est pas un hasard, ou si cela tire d'un hasard, il s'agit d'une synchronicité significative que le nom des sorcières mythiques de l'histoire gothique qui ont donné naissance au Hun était Aliurunas, nom qui traduit littéralement du gothique en « les mystères de la mort ». Les descendants des gothiques cherchent toujours à percer les mystères de la vie et de la mort, à pénétrer au plus profond d'eux-mêmes et aux confins d'un monde obscur et chaotique, s'enfoncer hardiment dans les ténèbres pour chercher le Graal de sa sagesse immaculée, chercher le mystère tel qu'est la quête suprême des enfants gothiques de la nuit. La quête, oh, et la quête seule est porteuse de grands pouvoirs. Les mots gothiques alors pour que mystère comprennent le bien est Runa. Lorsque l'évêque gothique Ulf Là se traduisit la Bible chrétienne en gothique pour l'utiliser dans le culte gothique. Il traduisit le mot grec mysterion par le mot gothique runa. Le pouvoir pratique de cette idée à la fois simple et obscure du mystère a été bien illustré dans un épisode de la populaire série télévisée américaine Unsolved Mysteries. Un jour, un père au chômage amène ses fils pêcher dans une forêt isolée où il découvre dans la rivière des pierres gravées de divers symboles arcanes. Le père et ses fils sont profondément frappés par ces sigles. Que peuvent-ils signifier? Qui a pu les graver? Ils rentrèrent chez eux avec un sentiment de mystère et de merveillement. Peu de temps, les occasions d'affaires se sont multipliées pour le père et la famille est devenue prospère. Eux, ils ils attribuèrent leur bonne fortune au pouvoir des pierres, même si des experts d'une université voisine ont déterminé que les sigles avaient été sculptés que récemment et n'étaient pas des pétroglyphes amérindiens anciens, même s'ils semblaient être des imitations de ceux-ci. En effet, famille avait tiré sa chance des pierres, mais non pas en raison des formes ou des qualités particulières des sigles mêmes, mais plutôt en raison du sentiment de pouvoir mystérieux qui avait frappé le père et les fils lorsqu'ils les avaient vus. C'est le mystère ici qui est la clé. Dans les années à venir, la valeur et le pouvoir du concept du mystère pur ou du caché deviendront plus évidents au fur et à mesure que les voies du gothique des ténèbres commenceront à se dévoiler. Ce qui relie ce monde à celui du mystère gothique est clairement symbolisé par le sort. Mais ne confondez pas le symbole avec la totalité de la chose, même s'il est, en tant que véritable symbole, bel et bien un fragment de la chose elle-même. L'héritage gothique, l'héritage du pouvoir et de la sagesse, est une information codée qui est transmise de génération en génération par un processus paraphysique encore inconnu. La connaissance de ce mode de transmission de l'information est l'une des plus grandes interdictions de notre société contemporaine. La raison en est qu'elle représente la plus importante contestation du pouvoir des institutions chrétiennes et modernes qui dépendent des modes conventionnels de transmission de l'information, en particulier par le mot écrit. Le secret interdit du dieu gothique est que l'on peut être informé de l'intérieur au moyen de ces structures inertes, stimulées par l'expérience réelle dans le cadre d'une connaissance intellectuelle objective, d'une sagesse pure. Lorsque la bonne constellation d'individus possédant cette connaissance sera présente, il porte la dépendance vis-à-vis des églises médiévales comme des gouvernements modernes commencera à prendre fin. Le dieu gothique des ténèbres, le dieu inconnu, le dieu caché. Et donc, il est le dieu des choses inconnues et cachées. Ses actions et motifs sont cachés parce qu'il est caché. Et de simples mots ne peuvent pas révéler cette information. Seuls les mots sacrés, soit les formes cachées derrière certains concepts clés, peuvent nous la transmettre. Ce sont ces mots-là, les runes, qui détiennent les secrets de la conscience éternelle et du pouvoir au-delà de la mort. Regardez et voyez-le devant vous maintenant. Et si vous le voyez, vous devez travailler pour réaliser le mystère intérieurement et après l'avoir maîtrisé à l'intérieur, pour le réaliser extérieurement. Dans son ouvrage phare, La condition postmoderne, le critique français Jean-François Lyotard nous partage des pensées intéressantes sur le caractère de la connaissance et de l'inconnu dans les années à venir. La science de postmoderne, en se préoccupant de choses telles que les indécidables, les limites d'un contrôle précis, des conflits caractérisés par une information incomplète, les fractas, les catastrophes et les paradoxes pragmatiques, théorise sa propre évolution comme étant discontinue, catastrophique, non rectifiable et paradoxale. Elle change le sens du mot « savoir » tout en exprimant comment un tel changement peut avoir lieu. Elle produit non pas le connu, mais l'inconnu. Et parmi les choses inconnues qui seront produites dans la zone du non manifeste que les profanes appellent l'avenir, il y aura l'engendrement d'un nouveau royaume mécatique qui ne sera rien d'autre que la remanifestation du royaume mensuel. Pour l'instant, il vit dans une obscurité cramoisie. Et dans la tour en spirale, le dieu Gotsukatoi observe ce qui fait renaître son royaume en exerçant leur volonté sur le monde. Reinaltel Runa. Cadavre, je vous dis, cette prononciation prophétique l'a entendue, ce manifeste du mystère de Maître Eldred, rédigé et publié alors même que les églises norvégiennes étaient enflammées et illuminaient le ciel nocturne nordique, nous révèle sans équivoque du tout que l'émergence du black metal est en soi l'éveil de cette ancienne arcanique et obscure conscience collective. Notre noir culte en est sa voix, et avec celle de ce dieu gothique des ténèbres, et nos congrégations fidèlement entendons et faisons écho à son appel. Oh, comme offrande liturgique pour cette sombre occasion, je vais vous laisser avec une retrouvaille de cette ardente époque de la seconde vague de black metal des années 90 de la Norvège, où en 1992 fut fondé un de ses groupes les plus formidables de la Horde. Un terrifiant triumvirat de cultiques agitateurs du nom de Trelldom. Connu surtout pour être le premier projet du vocaliste controversé mais furieusement talentueux, Gal. De leur deuxième et un classique indubitable de la scène, publié en 1999, je contribue au rite la chanson-titre « Qu'il est en est » ou en français « Pour un autre ». Il est la référence suggestive qu'ici, il s'agit d'un être énigmatique et étrange, un dieu gothique, à qui une offrande innommée est présentée. Et les paroles, traduites en français, nous le confirment. Brûle-moi un autre, oublié et inconnu. Brûle-moi un autre, souvenir et connaissance. Pendez-moi un arbre froid comme le vent, le gel des feuilles jusqu'à la fin de l'hiver. Pendez-moi mon souffle dans la fumée glacée des mots d'un autre. Attire-moi dans un puits sans fond, alors qu'il se remplit à ras-bord, se remplit jusqu'au fond. Amène-moi la source de la sagesse, donnez-moi mon œil, l'œil est à moi pour un autre. Oh, quelle glorieuse synchronisation poétique et musicale des forces de l'ombre, véritablement dans le sang et de par le culte black, et en nous qui en sommes ainsi flamboyamment éveillés. Et pour un dernier vous dévoiler avec les autres mystères, celui de la musique de fond que vous avez entendu le long de mon homélie, cela a été d'une sorte d'ode, duo de mages danois Angst et Offermose, dont l'œuvre est une des meilleures contributions récentes au genre Electro Underground du Dark Ambient. en particulier pour nous, là, l'album de 2022, leur dernier, Depressive Maggie. Je vous quitte, congrégation, en vous sifflant. Salutations hurlantes à vous. Et comme toujours, interminablement que le mystère de votre sang, ancien et vivant, que les enseignements de l'effrayant, de l'effarant, vous guident dans la toundra de votre ténébreux.